Bonjour à tous, sauf si j'ai pas vu. Vous allez bien? Alors, j'ai préparé mon message cette nuit entre Alep et la braderie. Que je fasse attention. Alors, j'avais commencé sur Ésaïe, puis je vais essayer de terminer sur Ésaïe. Je vais essayer de terminer dernière approche. Il y aurait tellement à dire sur le prophète Ésaïe. Et puis moi, par moments, je suis un peu sorti des clous. C'est souvent, c'était de parler de la vie d'une personne. Et bon, là, je vais essayer de vous parler de la vie de quelqu'un dont on n'a pas le nom, toujours avec le prophète Ésaïe. Dans ce que je vais vous raconter, en fait, Ésaïe va... Il va s'effacer et puis il va nous parler d'un serviteur et ce serviteur va aussi s'effacer et il va parler d'un autre serviteur. Alors, au chapitre 40 du livre d'Ésaïe, le Seigneur, au fur et à mesure de ces chapitres 40 et les suivants, va nous déballer quelque chose. Un cadeau. Chapitre 40 et suivant. Il parle d'un personnage très mystérieux que l'Éternel appelle son serviteur. Donc Ésaïe a été appelé au ministère en 740 avant Jésus-Christ et il a vu défiler plusieurs rois. Et sur la fin de sa vie, il reçoit une parole de l'Éternel qui lui annonce que son peuple va être déporté. Et tout ça va se produire après la mort du roi Ézéchia, qui aurait pu dire à ce moment-là, bah, après moi le déluge. Mais l'Éternel va non seulement lui parler d'une déportation, mais l'Éternel va aussi lui annoncer une autre chose. Une autre chose non seulement qui concerne les déportés, les futurs exilés, mais aussi ça va aller plus loin que les exilés. Ça va dépasser la génération des exilés. Ce que Dieu va lui dire à propos de ces exilés et au-delà, ça vient jusqu'à nous. Ça va venir jusqu'à nous. Ça vient jusqu'à nous. On va comprendre après ce que je veux dire. Bien sûr, quand les exilés, bien sûr, ils vont être découragés en se disant, même en pensant que l'Éternel les a abandonnés, le peuple n'a plus quoi faire, et c'est souvent dans ces moments-là qu'on a tendance à se tourner vers des idoles. Et c'est vrai qu'à Babylone, il y avait des idoles, il y en avait beaucoup. Et Dieu donc annonce à Ésaïe, il lui dit, voilà, ils vont être déportés à Babylone. Ils seront soumis à l'autorité de Babylone. Et le Seigneur leur annonce donc par la bouche d'Ésaïe que l'Éternel va intervenir par la suite, plus tard, en leur faveur. Et qu'il va leur démontrer qu'il n'est pas seulement le Dieu de ce petit peuple, mais qu'il est aussi le Dieu de toute la terre et de toutes les nations. Donc, je suppose que Ésaïe ne devait pas tout comprendre de ce qu'il recevait. Il écrivait, voilà, Dieu dit ça. Mais voilà, Dieu a des projets et il prévoit de nous ramener de l'exil, de nous sortir de Babylone, de nous ramener à Canaan, mais en plus, il va aller plus loin et au-delà de nos frontières pour devenir le Dieu de toutes les nations. Grand mystère, pas facile à comprendre pour les gens de l'époque. Dieu veut devenir le Dieu de l'univers qui ne fait exception de personne, le Dieu de miséricorde. Ésaïe annonce de la part de Dieu donc le retour de l'exil, et c'est pour cela que ce livre s'appelle le livre des consolations, consolation d'Israël. Le chapitre 40, en fait, il commence consoler, consoler mon peuple. On appelle le livre des consolations, consolation d'Israël. Nous sommes devant donc un nouvel exode. On se souvient qu'ils ont été en esclavage en Égypte. En Égypte, qui était appelée la maison de servitude. Pour tout dire, là-bas, c'était le bagne, les travaux forcés. Et le Seigneur leur a suscité Moïse pour les délivrer du bagne et les faire sortir d'Égypte. Et par la suite, vous la connaissez. Ce fut, avec Moïse, le premier exode. Une fois sortis d'Égypte, ils ont conclu une alliance, ils ont reçu la loi, et ils ont pris Canaan, à la conquête de Canaan. Ésaïe annonce au chapitre 40 et suivant un nouvel exode, encore un autre. Qui dit exode dit encore un autre Moïse, une autre alliance, une loi. Donc Ésaïe annonce au chapitre 40 et suivant un nouvel exode pour un retour à Canaan. Il en parle déjà au chapitre 11 de son livre. Et l'Éternel lui parle de deux personnages. Et ces deux personnages qui vont intervenir pour cet exode sont appelés serviteurs. Sur les deux personnages, Dieu révèle le nom d'un seul. Le premier porte le nom de Cyrus. Cyrus le Grand, qui était l'empereur des Mèdes et des Perses, et à qui Dieu a confié la mission de délivrer le peuple d'Israël et de le ramener dans sa terre. Il a eu la victoire avec l'aide de Dieu. Il a soumis l'empire babylonien. Et il a permis le retour de l'exil et la reconstruction de Jérusalem. Mais derrière ce Cyrus, il y a un autre personnage. Il y a un personnage qui se profile à l'horizon, comme si que Cyrus était le précurseur de... Il y a un autre personnage qui apparaît tout doucement, progressivement dans les textes, qui se dessine. Il n'a pas de nom. Le seul titre qu'il a, c'est serviteur de l'Éternel. Ce serviteur qui est utilisé dès le chapitre 42, il est le contraire, il est l'opposé de Cyrus. Cyrus, il a fait beaucoup de bruit, beaucoup de guerre, beaucoup de choses. Tandis que ce serviteur n'élèvera pas la voix. Il sera discret, patient. Il n'éteindra pas le luminon qui fume encore. Il est différent de Cyrus. Puis, dans plusieurs passages, on voit petit à petit les traits du serviteur qui se dessinent. Il y a des faits étranges qu'on ne devait pas comprendre à l'époque, qui sont mentionnés sur une destinée de souffrance. Ce serviteur a une destinée de souffrance. Ce serviteur suscité par Dieu afin d'accomplir le salut de son peuple. Il va finir par prendre beaucoup de place et Cyrus va s'effacer. Et ce serviteur, au fur et à mesure des textes, il va prendre beaucoup de place. Ce serviteur dont on a annoncé les souffrances s'élèvera dans une gloire incomparable. Il partagera le butin avec la multitude. Dans les textes, il y a certains textes qui ont marqué « partagera le butin avec les puissants ». Et je pense que la meilleure traduction, c'est la multitude. Il partagera son butin avec ses rachetés. Nous ne sommes pas des puissants, nous sommes juste des rachetés. Il y a un auteur qui a donné cette image en disant qu'il y a Cyrus. Cyrus, c'est le pilote de la remorque qui fait sortir le navire du port. Et le capitaine du navire, c'est le serviteur de l'Éternel. Le Nouveau Testament cite des prophéties au sujet du serviteur et nous assure qu'elles se sont accomplies en Jésus-Christ. C'est Jésus qui est venu comme serviteur pour servir. Et nous qui sommes appelés à le suivre, c'est le même rôle qu'il nous demande, de servir. C'est Jésus qui est venu comme serviteur et c'est par lui que le nouvel Exode s'accomplit. Il est le leader, il vient apporter la libération totale. La captivité en Égypte, elle a été difficile, elle a été dure et pénible. Celle de Babylone n'était pas mieux, c'était dur, c'était pénible. Mais celle qui est la plus dure de toutes, cette captivité, c'est celle du péché, c'est celle de la faute des hommes. C'est notre condamnation, la condamnation qui pèse sur l'humanité. Il nous faut un Moïse. Le chapitre 42, du verset 1 au verset 9, il dit ceci. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice et la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en lui. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Quel est le sort qui est réservé aux serviteurs de l'Éternel. Ce que nous pouvons observer, c'est que d'abord, contrairement à Cyrus, c'est que lui, il va pas manier ni la lance, ni l'épée. Il aura plutôt un rôle d'enseignant, un rôle de diffuseur de la parole de Dieu. On peut se retrouver, nous aussi, à travers ça, si nous voulons le suivre et marcher avec lui. C'est ce qui nous est amené à faire. Non seulement diffuser la parole de Dieu, mais aussi prendre soin des autres avec patience. Il ne faiblira pas. Il ne fléchira pas le genou jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Il est le dispensateur d'une nouvelle loi. D'une loi avec les instructions divines, comme Moïse. On parle là d'un nouvel Exode et donc d'un nouveau Moïse. Et c'est ce que démontre le verset 7. Pour que tu ouvres la mission de ce serviteur de l'Éternel, pour que tu ouvres les yeux des aveugles et que tu fasses sortir les détenus de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Ça, c'est le nouvel exode. Sortir d'eux. Et il nous parle d'une nouvelle alliance. Il y a eu une première alliance avec Moïse, et là, il nous parle d'une nouvelle alliance. Un exode, une alliance, une nouvelle alliance. Pour que tu sois l'alliance, pour que tu sois l'alliance personnifiée, l'alliance en la personne du serviteur de l'Éternel. C'est lui l'alliance. Pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations. Moïse a été l'homme de l'alliance, le médiateur utilisé par Dieu pour conclure son alliance avec le peuple de l'ancienne alliance. Donc voici ce serviteur présenté comme l'alliance du peuple. C'est en sa personne que le lien entre lui et Dieu et son peuple sera établi. Un nouveau Moïse plus grand que l'ancien. L'alliance du peuple, mais aussi la lumière des nations. Ça, c'est bien de savoir aussi que dans le Coran, il est aussi appelé la lumière du monde. Et quand on a une lumière, on ne va pas en chercher une autre. C'est en sa personne. Non, j'ai perdu ma ligne. Alliance du peuple, mais aussi lumière des nations, cela n'a pas été dit pour Moïse. Ce serviteur a un rôle universel, en parallèle à un Dieu universel. Si les nations ont tremblé en entendant parler de Cyrus, là, devant ce serviteur, eh bien, les nations ont espéré. Les îles espéreront en toi. C'est une espérance. Quand on entendait parler de Cyrus et de ses guerres, les gens ils flippaient et tout machin. Mais là, ce serviteur, c'est une espérance. Une autre chose importante, c'est « Je mettrai mon esprit sur lui. Je l'approuverai de tout mon cœur. Il est mon élu. » Moïse n'en a pas eu autant. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et il a reçu l'Esprit sans mesure. Il est en étroite relation avec l'Éternel. Je mets mon esprit sur lui, cette parole qui a été prononcée aussi par le Père au Jourdain. Et il dira même plus que serviteur, tu es mon fils. Il nous est aussi rapporté qu'il ne brisera pas, qu'il ne cassera pas, qu'il ne brisera pas le roseau qui est abîmé. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Cette prophétie s'adresse à des hommes et des femmes découragés. C'est la bonté, la patience du Seigneur, contrairement à Cyrus. Il ne faiblira pas, il ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait restauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente en lui. Cela nous fait entendre que des pressions vont s'exercer sur lui. Il ne faiblira pas, il ne se relâchera pas. Il va vivre des pressions et qui pourraient même être amenées à faiblir, à fléchir. Au chapitre 49, verset 1 au verset 13, il nous dit ceci. Il, écoutez-moi, peuple, soyez attentif, Éternel. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. Par toi, je montrerai ma splendeur et ma gloire. Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué, c'est pour le vide. C'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui et Israël. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. C'est pas assez. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le rachète, à l'homme qu'on méprise, qui fait horreur aux nations, à l'esclave des tyrans, à ta vue, des rois se lèveront, des princes se prosterneront à cause de l'Éternel, qui est fidèle du Saint d'Israël qui t'a choisi. Voici ce que dit l'Éternel au moment favorable. Je t'ai répondu, le jour du salut, je t'ai secouru, je te protégerai et je t'établirai pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et distribuer les héritages aujourd'hui dévastés. Pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils trouveront leur nourriture sur les chemins et des pâturages, sur tous les sommets. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, la chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Je transformerai toutes mes montagnes en chemins, et mes routes seront refaites. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord, les autres de l'ouest, d'autres encore du pays de Sinim. Ciel, réjouis-toi. Terre, cri d'allégresse. Montagne, éclatez en cri de joie. En effet, l'Éternel console son peuple. Il a compassion des plus humbles de ses membres. On retrouve les expressions alliance avec le peuple, lumière des nations, libération. Et après la libération, la traversée du désert, l'exode. Le nouveau Moïse sera plus grand que l'ancien. C'est trop peu que tu sois mon serviteur. C'est pas assez, c'est pas suffisant. Tu vas aller plus loin, beaucoup plus loin. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Un Moïse universel. La prédestination du serviteur. Le mot qui fâche, prédestination. Mis à part, appelé dès le ventre de ma mère, préparé pour le Seigneur, pour la tâche que le Seigneur va lui confier. Ce mot « prédestination » est utilisé dans la Bible, mais aussi employé pour le Seigneur. Il est utilisé pour nous, je crois, dans le livre de Pierre, « prédestination », mais il est aussi utilisé pour le Seigneur, « prédestiné ». Il est aussi dans ce passage « tu es mon serviteur Israël ». Tu es mon serviteur Israël. Par toi, je montrerai ma gloire, ma splendeur. Il est aussi appelé Israël. Et je dis Israël, je ne veux pas que vous êtes Israël. Israël avait été établi comme serviteur de l'Éternel. Dieu avait pris le peuple d'Israël pour qu'il soit un peuple témoin, parmi les nations. Mais au lieu de faire briller sa gloire, au lieu de faire briller la gloire de Dieu, comme c'était sa mission, les prophètes sont allés jusqu'à dire, à cause de vous, le nom de l'Éternel est blasphémé tous les jours. À cause de l'infidélité d'Israël. L'infidélité d'Israël qui n'a pas été à la hauteur de la mission. Elle n'a pas fait rayonner la gloire de Dieu. Et pourtant, c'était sa vocation. Maintenant, l'Éternel dit au serviteur, c'est toi l'Israël, parce que je ferai par toi resplendir ma gloire et relever mon nom. C'est le vrai Israël en une seule personne. Israël personnifié en une seule personne, incarné par une personne. Il s'appelle Israël, mon serviteur. C'est le vrai Israël en une seule personne, Jésus lui-même, qui dira « Je suis la vraie vigne, je suis le vrai cèpe, et mon Père est le vigneron. Je suis la vraie vigne, symbole d'Israël, la vigne. » Mais Jésus va dire « Je suis la vraie vigne, mon Père c'est le vigneron, c'est moi la vigne. » C'est moi, Israël. Et donc, si Jésus dit « Je suis la vraie vigne », c'est comme s'il disait « Je suis le vrai Israël ». Et donc, tous ceux qui sont en lui deviennent le vrai Israël. Vous êtes le vrai Israël parce que vous êtes en lui. Israël, par qui je ferai resplendir ma gloire, un Israël digne. Je vais revenir sur il ne faiblira pas. Il ne se relâchera pas. Sans doute, comme je disais tout à l'heure, il va vivre des pressions. Des pressions qui vont essayer de le faire fléchir. Le serviteur a pu être tenté par le découragement. Les choses ont tellement été difficiles qu'il a pu dire à un moment donné « Je suis fatigué. C'est en vain que je me suis fatigué. » Comme il dit dans les versets qu'on a lus. « C'est en vain. Le Seigneur Jésus s'est fatigué sur les routes de Galilée et dans tout le pays. Il a rassemblé des foules. Puis les gens partaient, l'abandonnaient. » En disant, ces paroles qu'il dit, c'est trop dur pour nous, pour en comprendre. C'est trop dur d'écouter tout ce qu'il nous dit. Même les disciples qui ont fini par se disperser à un moment crucial. Et encore, les trois qu'il a choisis et qu'il a emmenés dans le jardin des Oliviers et qui se sont endormis au lieu de veiller et de prier. Quand tous les autres, quand tous les autres t'abandonneraient. Ah, qui dit cette phrase merveilleuse? Pierre, quand tous les autres t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas. Il a vécu pas mal de pression. Il y avait de quoi se décourager, je comprends. Et le Seigneur Jésus n'a pas cédé au découragement. Mais il a surtout vécu la tentation de se décourager. Il a dû être tenté terriblement. Surtout quand tous vos proches vous abandonnent, qu'il n'y a plus personne, tout seul, on s'en pose des questions. Et au verset 7, comme j'avais dit tout à l'heure, voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le rachète à l'Éternel, à l'homme qu'on méprise, qui fait horreur à la nation, à l'esclave des tyrans. À ta vue, des rois se lèveront, des princes se prosterneront à cause de l'Éternel, qui est fidèle du Saint d'Israël, qui t'a choisi. Le serviteur est appelé celui qu'on méprise. que les nations ont en horreur, l'esclave des tyrans. Le serviteur de l'Éternel va connaître l'humiliation, le rejet. Des gens vont se dresser contre lui, des puissants de son époque. Mais sa mission n'est pas seulement que l'enseignement et la prédication, c'est de ramener aussi les rachetés. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi au programme, dans sa mission, une souffrance qui est programmée. Le serviteur de l'Éternel qui connaîtra une souffrance, mais aussitôt après, Dieu va relever tout ça. Des rois se lèveront, des princes se prosterneront devant toi. Te dit l'Éternel, le Saint d'Israël, qui est fidèle et qui t'a choisi. Le serviteur de l'Éternel est insulté. On retrouve tout ça dans le chapitre 50, 52, 53. Je ne vais pas vous les lire tous, on passe encore là, mais je vous invite à lire ces chapitres. Le serviteur se montre comme le parfait disciple, parfaitement soumis au Père. C'est l'attitude que Jésus a eue. Il dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » Il méditait les paroles du Seigneur et il a tenu bon sous les insultes et sous les crachats et sous les coups. Nous avons ce verset dans le chapitre 50, le verset 10, qui dit « Qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur ?» Si quelqu'un marche, je ne fais pas de la pub pour Macron, mais si quelqu'un marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. Et oui, pas facile de marcher dans l'obscurité si on n'a pas beaucoup de lumière. On a besoin de cette lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, le serviteur de l'Éternel. Nous sommes appelés à le suivre et donc à placer notre confiance en Dieu, même dans l'obscurité, par la foi. Et on verra donc dans les chapitres que vous pouvez lire, 52 et 53, et c'est là que je vais conclure, où il devra mourir. Ce serviteur va mourir. Sa souffrance n'est pas un accident. C'est pas un accident. La souffrance, elle est écrite. Elle était présente dans l'Esprit de Dieu. On trouve aussi dans ces chapitres le pourquoi de cette souffrance. Pourquoi ce serviteur va souffrir tout cela? On pourrait être choqué en se disant, pourquoi il va souffrir tout ça celui-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Les chapitres nous diront qu'il a porté nos souffrances, qu'il s'est chargé de nos iniquités. Il nous amène la délivrance, il nous fait sortir. C'est l'exode, un nouvel exode. Et dans ces chapitres aussi, il nous parlait aussi du triomphe, parce qu'il va aussi triompher. Il va ressusciter, il va revenir à la vie, ce serviteur. Il emporte la victoire. Et le butin, eh ben, c'est avec nous qu'il va le partager. Il le partage déjà quand on vit des expériences, quand on vit du bonheur, à parler de Christ, ou qu'on vit des témoignages, des bénédictions. On partage. Le Seigneur nous fait partager son butin. Déjà. Alors dans le ciel, c'est le plus grand de tous les partages. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis à chacun.